L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Alors, bonjour à chacune et à chacun. Vous allez bien? Vraiment, quand Jean-Claude m'a contacté pour me proposer d'intervenir aujourd'hui, d'intervenir au début d'une séquence comme celle-ci, la foi source de la joie, j'ai pas pu m'empêcher d'accepter parce que je trouvais ça merveilleux. Et j'irai malgré toutes les craintes et les tremblements, parce qu'à la fois, je trouve que c'est un thème tellement vital, tellement essentiel. Et moi, ça m'a aussi obligé de m'arrêter un peu plus pour réfléchir sur la foi. Évidemment, la foi, on est venu au monde là-dedans, on a été baptisés, nous autres, nos enfants, nos petits-enfants, donc c'est plus tard, mais nous, c'est comme si ça allait de soi. À partir du moment où on nous demande de prendre la parole sur quelque chose qui va de soi, tout à coup tu dis, mais de quoi on parle au juste? De quoi il s'agit? C'est quoi ça, la foi? Quand on dit, à cause d'une croix plantée en nos terres, ben c'est un petit peu... ça veut dire quoi? Alors, on est habitué de le dire, ça sort, on le chante sans trop réfléchir. Mais la croix, évidemment, c'est la croix du ressuscité, la croix de Jésus. Jésus est passé par la croix pour une vie nouvelle, un passage. Et quand Jésus est allé sur la croix, la dernière chose, la dernière parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » J'aurais la foi totale, absolue, immuable. Et ce qui est advenu, qui dépasse toute raison, c'est précisément le Père qui est toujours présent et qui fait qu'au-delà de la mort, Jésus est toujours vivant. C'est là le cœur de la foi. Saint Paul lui dit, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On perd notre temps de croire. » Mais précisément, s'il est ressuscité, c'est la source de notre foi. Et nous allons donc aujourd'hui réfléchir ensemble, prier, partager. Mais je dirais, ce que je voudrais essayer de faire, puis pour moi, c'est pas toujours naturel, parce qu'évidemment, j'ai une déformation de professeur. J'essaie toujours d'expliquer des choses. Puis comme me disait un de mes anciens professeurs, face à des problèmes insolubles, l'ordinateur, lui, va se taire, mais l'être humain, lui, continue à parler. Hein? L'être humain, il jase. Ben, je vais essayer de réfléchir, mais en même temps, je me dis, je suis pas capable de toute façon d'expliquer les choses. Je suis capable, éventuellement, avec vous, de partager, d'échanger. Avec le beau texte aussi qu'a préparé Hélène et que nous allons lire, nous sommes invités à entrer dans une expérience. Et c'est ce que j'aimerais avec vous partager ce matin. Aborder la foi, mais la foi au niveau de notre expérience de foi. On n'essaiera pas de tout expliquer parce que de toute façon, on s'épuiserait là-dessus. C'est un des gros projets d'Augustin, c'est d'essayer entre autres d'expliquer la foi en la Trinité, d'expliquer la Trinité. Puis à un moment donné, il a fait un rêve, vous savez, le rêve d'Augustin. Il rêvait qu'il était sur le bord de l'océan. Et puis là, il avait fait un trou dans le sable. Puis là, il y avait une espèce de seau, là, une chaudière. Il allait chercher l'eau, il mettait dans le trou. Puis là, il courait comme un fou. Il courait. Puis là, quelqu'un qui est arrivé, il me dit, « Qu'est-ce que tu es en train de faire? » Mais il dit, « J'essaie de mettre l'eau Seigneur dans le trou. » Ben, il dit, « C'est la même chose que tu fais avec le mystère. Tu ne réussiras jamais à mettre le mystère dans ton savoir, dans ta connaissance, parce que le mystère va toujours être plus grand. » Autrement dit, la foi ou le mystère de foi, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de découvrir. C'est pour ça que c'est un mystère. C'est une voie qui nous ouvre et qui nous donne du souffle. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va aborder et qu'on va essayer de réfléchir ce matin. Le texte d'Abraham, il est extraordinaire. J'allais dire, quelle belle histoire. Et quand on regarde dans la Bible de Jérusalem, c'est intéressant parce que on est tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, et dans la première partie du livre de la Genèse, on met en haut les origines du monde. On dit les origines. Et là, c'est un grand poème, la Genèse, en 6 jours et tout ça, où on nous parle qu'il y a eu une origine. C'est comme moi, je peux vous parler de mes origines, mais comme on dit souvent, il y a 2 éléments pour lesquels on n'est pas témoin dans notre vie. On n'est pas témoin de notre naissance. Puis on n'est pas témoin de notre mort. On n'est pas témoin parce qu'on est les acteurs. C'est nous, on les fait. Mais après, je peux essayer d'en parler, de dire mes origines, je viens d'en parler, je fais ça, mais là, c'est comme un récit sur mon origine, mais j'en suis pas témoin. Et la deuxième partie qui parle avec Abraham, ça s'appelle histoire. Après avoir dit, oui, il y a eu une origine dont on parle, serait comme un grand poème, là, on entre dans l'histoire. Et ça, c'est dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'humanité. Parce que le Dieu dont on parle, le Dieu de la foi, c'est quelqu'un qui est venu à la rencontre de l'homme. C'est quelqu'un qui s'est approché, et quand on suit à travers les textes, c'est l'histoire de l'Alliance. Et cette histoire, évidemment, on est aussi des acteurs de l'histoire. Et là, il y a des choses qu'on y dit, il y a des choses qu'on comprend, et il y a des choses que l'on fait. Et je dirais, Abraham, il est entré dans cette histoire pour nous dire qu'à un moment donné, il a reconnu, lui, un appel, une intervention. C'est un appel qui est arrivé avec Abraham. Abraham, on l'appelle le père de la foi. Il est le père pour la foi des chrétiens, pour la foi des musulmans, pour la foi des juifs. C'est le même père. Il est reconnu par tout le monde là-dessus. Il n'y a aucun problème au plan théologique, au plan historique. Si vous allez voir dans le Coran, si vous allez voir dans le Talmud, si vous allez voir dans la Bible, le père, le premier, qui a dit, « Oui, je te fais confiance. Oui, je te suis. » Donc, on entre dans l'histoire humaine par Abraham. C'est l'histoire humaine de la foi. Et pour nous, la foi, bien, qu'est-ce que c'est que la foi? Une grande théologienne devant l'Éternel, qui s'appelle Hélène Verrett, a réfléchi et a proposé un texte. Elle m'a demandé de le lire. Alors, je prête ma voix à cette lecture. On dit d'Abraham qu'il est le père des croyants. Dans la Bible, on le présente comme le premier témoin qui a choisi de croire en Dieu. C'est le premier. Et qui a choisi? Oh! On peut m'imposer des choses. Un esclave ne choisit pas puis il va obéir. On ne dit pas le premier qui a obéi. On dit qu'il a choisi d'obéir. Oh là là! Nous, on a des choix à faire. On est des êtres humains. On n'est pas des petits chats et des petits chiens qui sont tapés dessus pour aller dans notre foi. On est, où qu'on soit, appelé à faire un choix. Donc, il est le premier qui a choisi de croire en Dieu. Quand Dieu lui a demandé de quitter son pays natal pour aller vers un autre pays, il a accepté. On ne l'a pas envoyé avec une baïonnette, là. Il a accepté d'écouter Dieu, de croire en lui. Quand Dieu lui a demandé de lui offrir son fils unique, ce cher Abraham, Dieu lui avait promis un fils. Il a voulu aider Dieu avec sa servante. Dans la loi, c'était permis, quelqu'un qui n'avait pas une génération, il pouvait, avec la servante de sa femme, vivre une expérience qui donnait naissance à un enfant, et Abraham a eu Ismaël. Mais Dieu lui a dit, tu auras un enfant de ton sang, de toi et de Sarah, ta femme. Alors, il a eu ce fils avec sa femme qui était fort âgée, et il l'a appelé Isaac. Alors, quand Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice sur l'autel, vous comprenez, là, hein, on est 4000 ans avant Jésus-Christ, on est à une époque où dans les rythmes, les façons de vivre et tout ça, pour adorer son Dieu, on offrait, on faisait des offrandes, on offrait ce qui était de plus beau pour faire plaisir à celui qui était notre maître, notre Dieu. Alors, quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice sur l'autel, il a choisi d'accepter Dieu et il a accepté de lui offrir. Mais, c'est pour notre histoire humaine, ça. Dieu a arrêté la main d'Abraham qui s'apprêtait à immoler son fils parce qu'il avait choisi d'obéir. Il a arrêté la main d'Abraham. Et Dieu lui a dit alors, « Je vois bien que tu as choisi de croire en moi et que choisissant de croire en moi, c'était pour toi la chose la plus importante du monde. » Plus important encore que ton fils, toi, t'es prêt à me l'offrir, et moi, je suis pas un Dieu qui te demande de me donner ton fils comme ça. Je veux pas ça. Je veux que ton fils, après, devienne lui-même un être, un fils du royaume. Alors, sois assuré, Abraham, que je ne t'abandonnerai jamais. Et tu auras une descendance plus grande que les grains de sable sur la plage et que les étoiles dans le ciel. Et cette promesse de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, elle a mis la joie dans le cœur d'Abraham. Je continue. La foi en Dieu met dans le cœur de l'homme et de la femme de la joie, car elle invite à lâcher prise et à remettre au quotidien notre vie dans les mains du Seigneur. Son fils Jésus répète très souvent dans l'Évangile, « Ayez foi en mon Père et en moi. Qui croit en moi, croit en mon Père. » Il dit aussi, « N'ayez pas peur. Vous êtes chacune et chacun « ma fille, mon fils bien-aimé. » Est-ce que nous acceptons de croire en cette parole? Est-ce que nous choisissons de croire? Est-ce que nous demandons à l'Esprit de nous aider à accueillir cette foi? La foi nous permet de ne jamais... La foi, c'est la foi en Dieu. Sachez en qui repose votre foi. Cette foi en Dieu nous permet de ne jamais nous laisser décourager par ce qui semble parfois un non catégorique de Dieu à ce que nous demandons. Croire en sa compassion malgré les apparences, comme Jésus a cru à son Père sur la croix, malgré les apparences où les gens disaient « il a été abandonné ». Persistez dans la prière, car des miettes, il en tombe toujours de la terre du Seigneur. Ça, c'est de la Hélène Toucrachie. Persistez dans la prière. Des fois, c'est dur. On se demande pourquoi on prie, mais persistez parce qu'il y aura toujours des miettes, et c'est les miettes qui nous mettent en lien avec cet amour de Dieu. Je démontre ma foi par mes actes, parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Je démontre ma foi par mes actes. Évidemment. Là, c'est elle qui écrit ça, c'est pas moi. Que mes babines aillent avec mes bottines. Je pense que c'est une grande parole d'Évangile. L'Évangile selon Hélène. Que mes babines aillent avec mes bottines. Que mes gestes parlent plus fort que mes paroles. On parle le langage non-verbal. Je voudrais prévoir et connaître à l'avance ce qui va se passer. Mais Jésus me dit, tout comme Dieu a dit à Abraham, Jésus me dit de faire confiance, de ne pas avoir peur et de mettre toute ma confiance en lui. Je vous propose que nous écoutions un récitatif biblique. On vire les choses d'abord. Excusez, ok, d'abord, c'est un autre chant. Moi, j'imagine tout. Non, c'est le récitatif. Non, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Tout est beau. C'est le chant. Oui, c'est le chant. On va revenir. Non. Excusez-moi. C'est mourir un peu. Merci beaucoup, Marc-Claude. Partir, c'est quitter. Partir, c'est se accepter d'être déplacé. C'est aller vers ailleurs. Mais partir, parce qu'on répond aussi à un appel, c'est un acte de foi. On est venu au monde comme ça, et là on va parler un petit peu de la foi. La foi. Pendant que je réfléchis à ça, je pensais, moi, à mes deux petits-enfants. Vous avez plusieurs des petits-enfants, des tout-petits. Je pense à Ariel et Émile, c'est mes deux petits-enfants. Bon, ils sont rendus à 6 ans et 8 ans, mais je repensais à tout ce qui se vit avec les parents. Quand à un moment donné, s'il se fait mal, s'il a peur, s'il arrive graduellement, puis là, ça fait partie de la vie. S'il n'y avait pas, et puis là, ne demandez pas, si vous dites à Ariel, à 2 ans ou 3 ans, même un bébé, peu importe, si vous dites, ah, pourquoi tu appelles toujours ta mère? De toute façon, il n'entendra même pas la question, mais. C'est cette foi, cette confiance totale qui fait que l'enfant, il est capable de se déplacer. Si on a dit, bon, OK, là, on fait ici, là, on fait ça, on part. L'enfant, il va aller. Évidemment, si on veut prendre un bébé qu'on connaît pas, puis un voisin veut le prendre, ça va, il va se sauver, il veut pas. Il y a quelque chose là-dedans qui est important. Parce que, j'allais dire, c'est ça qui nous façonne comme être humain. Évidemment, il peut y avoir des expériences, parfois des expériences douloureuses, tristes, et puis il y aurait beaucoup de gens qui peuvent être tristes, tout ça, parce que cette expérience a pu connaître des blessures dans l'enfance. Je pense à un écrivain qui s'appelle Virginia Oxlane, un modèle, qui racontait toute l'histoire d'un petit bonhomme qui s'appelle Dibbs. Pour des problèmes, je veux dire, toutes sortes de problèmes, ça lui a pris un bout de temps parce qu'il a pu rencontrer d'autres gens, refaire un lien de confiance. Je dirais, quand Jésus dit dans son évangile, à moins de devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ce à quoi nous invite, c'est pas d'infantiliser, de jouer au bébé, mais c'est de retrouver cette attitude de l'enfant face aux parents. Quand l'enfant, lui, se tourne vers sa mère et son père. Ils sont pas en disant, fais ça parce que j'ai été gentil, j'ai pas fait de crise, je me suis pas battu, parce que j'ai fait des bonnes choses, je te fais confiance et tu vas m'aider, puis si j'ai pas fait des bonnes choses, ben là je peux plus te faire confiance parce que tu vas me punir. Ça marche pas comme ça. Autrement dit, la foi qui est dans l'enfant, c'est pas dû aux œuvres de l'enfant. C'est pas dû aux gestes qu'il fait. La foi est due à cet amour qu'il a reçu à la naissance, cet amour qu'il construit et cet amour qui lui permet de suivre. Dans le psaume 27, qui est extraordinaire, si jamais vous avez le temps de relire ça, le psaume 27, retenez ça, et mais on dit, il y a un passage au verset 10 qui dit, c'est Dieu qui dit, « Et même si ton père et ta mère t'ont abandonné, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Parce que Dieu, lui, il est immuable dans son amour. Il n'est pas calculateur, il est entier. Et le choix qu'il a fait, quand il a dit à Abraham, « Je serai pour toujours avec toi », et le choix qu'il a répété à travers les prophètes, à travers l'histoire de l'Alliance, c'est « Moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Je pense que c'est un aspect qui est infiniment important, et je dirais quelque chose de grand, mais dans la mesure où on nourrit cette foi et où on demande à Dieu de nous apprendre à être disponible. Parce que quand on devient plus grand, on calcule. T'as fait ça, ben moi je veux plus. T'as fait ça. Et là, on commence à vouloir négocier. Je dirais, c'est le propre aussi d'un jeune. On s'affirme. C'est important. Parce qu'en même temps, on a des choses à décider. On veut. Et puis là, ça marche plus tout à fait pareil. On n'est plus dans l'attitude de l'enfant, on est dans une attitude de responsable, d'autonomie. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent nous exploiter. Et c'est vrai que parfois, il faut se méfier. On n'a pas le droit d'être naïf. Sauf que par rapport à Dieu, ce que Dieu nous dit, c'est « Moi, jamais je vous ferai faux bond, jamais je vous trahirai. » Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre pour l'instant, mais soyez assurés que moi, je suis votre Dieu et je serai toujours, toujours avec vous. Dans le livre, c'est une autre traduction de la Bible qui est extraordinaire par Chourek. Où ai-je mis ma Bible? Je l'ai devant moi. Vous connaissez Chourek? Un juif qui est un exégète, qui lui a pris le texte hébreu dans ce qu'il y a de plus original. Et vous devez sûrement avoir entendu, mais le tout début du texte, quand on dit dans la Bible de Jérusalem, « Quitte ton pays, ta parenté, ta maison, ton père » pour le pays que je t'indiquerai. Et lui, Chourek, ça donne ceci. Yahvé dit à Abraham, va pour toi de la terre, de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Dieu vient dire, tu es venu au monde dans un endroit, tu es venu au monde de ton père, de ta mère, et puis tu habites à tel endroit. Va pour toi, donc pour ton épanouissement, pour ton bonheur, pour ton succès, pour ta réussite. Va de ta terre, de ton père ou de ton enfantement et de la maison, vers le pays que je t'ai indiqué, car ce que je te propose, c'est d'être celui qui va te conduire vers ta réalisation totale et absolue. Mais la seule chose que je te demande et que je ne peux pas faire à ta place, c'est que tu crois en moi. Là, on va écouter le récitatif.
De ton pays, de tes origines, et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu seras bénédiction. Je te bénirai. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et qui te méprisera, je le maudirai. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla comme le lui avait dit le Seigneur. Et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il sortit de Haran. Haran prit Sarai, sa femme, Lot, le fils de son frère, tous les biens qu'ils avaient accueillis et les gens qu'il s'était procuré à Haran. Ils partirent au pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Parole du Seigneur.
Gloire grâce à Dieu. Quel beau récitatif. Et je dirais aussi dans ce récitatif inédit ce matin, c'est toutefois inédit, mais les espaces qui sont les espaces de silence où on recherche peut-être la mémoire, mais c'est aussi les espaces, et là, c'est chacun qui le sait, chacun, on continue à grandir et on continue dans notre intériorité cette recherche de l'amour. Cet appel de Dieu qui, lui, nous appelle depuis toujours. Donc, nous aussi, nous sommes appelés, nous sommes conviés à la foi. Et une chose qui est importante, nous aussi, nous sommes appelés à grandir, à prospérer, à réussir, non pas par les œuvres que nous faisons, mais bien par la foi qui nous anime. C'est-à-dire, nous aussi dans nos expériences, parfois que ce soit nos expériences amoureuses ou nos expériences d'amis, c'est sûr que par exemple, si on n'a pas de famille ou je ne sais pas trop, on prépare un beau souper, puis la famille arrive. Qu'est-ce qui est le plus fort, j'allais dire, les choses ne se séparent pas, mais quand même, pour réfléchir, qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est la façon dont le rose beef a été cuit, puis il est succulent, puis médium saignant, puis il est tout fait? Ou si c'est l'amour de ceux qui vont le partager, le fait d'être ensemble, le peuple à un moment qui réunissent leurs enfants ou les amis qu'on reçoit et avec qui on partage, et à un moment donné, quand on se regarde, on est bien. Et en disant ça, on est bien. Moi, j'avais un professeur qui disait, c'est là qu'on donne un sens au bœuf de l'Ouest. C'est que le bœuf de l'Ouest devient un beau rose beef qui participe à l'amour et qui donne tout à coup un sens, il nous rassemble dans la joie. C'est-à-dire, on unit le monde, évidemment, là, s'il y a des végétariens ici, on va faire ça avec une aubergine ou autre chose. Mais peu importe, il y a quelque chose là-dedans qui est important de dire. C'est on est appelé à découvrir comment la foi, c'est ce qui est essentiel. Dans les textes, il y a un des textes qui est fascinant tout de suite après, là, ça c'est, quand on lit ça, on peut, ma femme a dit, tu n'iras pas ça, vous lui dites ça, moi le faire pareil. Parce que c'est pas toujours, une cassette à tourner? C'est à qui la cassette? Tu peux tourner. D'accord. On part-tu ici à la cassette? Ah, Alphonse, lui, il a réglé son arrière. Là. Bon. Quand on suit l'histoire d'Abraham, évidemment, on nous raconte qu'il est parti. Puis là, il s'est rendu à telle place. Puis là, il a vécu telle affaire. Puis là, il y a eu un petit bébé, Ismaël. Mais après, c'était pas lui. Puis après, il y a eu un autre. Mais il a toujours fait confiance. Puis il a voulu accepter d'offrir Isaac. Bon. Et puis là, tout à coup, au chapitre 15, on va lire à peu près ceci. Après tous ces événements, beaucoup de choses qui s'étaient passées, la parole, évidemment, il se passe des choses. Puis là, Dieu, il vient jaser. Il vient parler avec Abraham. Et il dit, « Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier. » Ta récompense sera très grande. Ton bouclier, c'est que moi, je vais te défendre contre tous ceux qui t'en veulent. Et Abraham répondit, « Mais mon Seigneur Yahvé, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Il n'y a pas encore eu Isaac. Et Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison va hériter de moi parce que j'ai pas d'enfant. » Alors, cette parole de Yahvé lui fit adresser, « Celui-ci que tu me désignes ne sera pas ton héritier, mais bien ce sera bien quelqu'un de ton sang. » Il le conduit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel, dénombre les étoiles, etc. » Et là, il lui dit, « Telle sera ta postérité parce que tu as cru en moi. » Et là, on ajoute, « Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. » Ça, c'est cette expression-là. Il crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Là, on passe à un autre ordre de chaussée. T'as été gentil, je t'ai fait ça. Compter comme justice dans ce langage-là, on est dans un texte un peu spécial, ça veut dire, oui, t'as fait ça, et parce que t'as fait ça, t'as droit à ce que tu veux. Parce que Dieu, il peut pas donner une postérité à quelqu'un qui n'en veut pas. Mais si on s'entend parce qu'on est dans une alliance, alors ce que tu as fait, moi je vais te compter comme justice. Mais qu'est-ce que Dieu compte comme justice? C'est pas le fait qu'Abraham, à la limite, ait fait bien des choses, c'est ce qu'Abraham a cru. Autrement dit, compter ce que Abraham a fait comme justice, ça veut dire compter que ta foi en moi va faire que je serai toujours ton bouclier. Parce que tu as foi en moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est ta foi en moi qui va t'apporter ta réussite. C'est pas tes œuvres. C'est pas que tu fasses. C'est ta foi. Ça, c'est l'essentiel. Ça, je pense qu'on a là un aspect. Puis je vais en parler un petit peu peut-être tout à l'heure, mais je vais le dire tout de suite. On vient de sortir d'un très, très beau colloque, un colloque de 3 jours autour du 375e anniversaire de l'arrivée des Augustines et des Ursulines au Québec. Elles sont arrivées en 1639. Et là, on réfléchissait sur qu'est-ce qui a amené ces femmes-là à venir ici. Parce que partir d'Europe pour s'en venir dans une bourgade où il y avait à peu près 250 blancs, et évidemment il y avait beaucoup d'Autochtones, mais 250 blancs, il n'y avait pas grand-chose organisé. Ils ont fait ça au nom de la foi, évidemment. Et là, une des questions qu'on se pose, c'est quoi qui était le plus important chez ces femmes-là et qui a rendu tout le reste possible? Ben, c'était pas leur argent, les femmes n'ont pas d'argent. C'est des religieuses, elles sont cloîtrées. Évidemment, ils vont avoir des bienfaitrices, la duchesse d'Aiguillon qui va aider les Augustines et qui va financer l'Hôtel Dieu, Madame de la Pelletrie qui va payer les frais de transport pour les Ursulines et qui va les assister pour établir une école. Mais Pourquoi elles ont pu faire ça? C'est pas parce que d'abord, elles voulaient avoir des grandes écoles normales. C'était d'abord parce qu'il y a un amour dans leur cœur qui les motivait. Elles ont pas fait ça. Les marchands, eux autres, ça, j'en peux le connaître mieux que moi, parce que c'est un bon administrateur, mais Alphonse, c'est pareil, bon. Mais quand on fait quelque chose, on le fait pour qu'il y ait du profit. Il a dit encore le ministre Couillard, il va financer l'amphithéâtre, on est sûr que ça rapporte. La finalité, elle est là. Et pour un administrateur, c'est tant mieux. Sauf que dans la foi, quand on fait un acte comme les Ursulines ou les Augustines ou comme Abraham, ce n'est pas d'abord un acte parce que je prévois les recettes que je vais avoir. Je fais d'abord ça parce que je crois. Parce que c'est l'amour qui me motive. C'est à cause du moteur que je lance un projet. C'est pas à cause du terme. C'est à cause de la source. Et la source, c'est Jésus. La source, c'est Dieu. La source, c'est la foi. Alors, ça nous amène justement à nous reposer cette question par rapport... C'est cette foi qui sera comptée comme justice. Ce sur quoi Jésus... Et Dieu veut nous évaluer, c'est dire, mais est-ce que tu me fais confiance? Et il attend notre oui. Et quand on dit oui, il ne nous abandonne jamais. Et dans la transmission qu'on fait aujourd'hui, des fois on dit, ah, il faut transmettre les valeurs, il faut transmettre le respect, il faut transmettre l'obéissance, il faut transmettre beaucoup de choses. Sauf que les valeurs, c'est pas la foi. Attention. Si on ne présente pas Jésus, si on n'est pas en contact avec la parole de Dieu, si on ne nourrit pas notre foi, moi j'en ai très attentif à dire, ok, j'ai pas fait péché, j'ai pas triché ma femme, j'ai pas été gourmand, moi mon problème, je fais tous ces péchés-là. Mais ça, je dis, ce que ça m'amène, je veux dire, ce sur quoi on est évalué, c'est d'abord, dans le plan de Dieu, c'est sur la foi qu'on a. Et plus on est nourri par la foi, plus on a envie de vivre selon cette foi. Et cette foi va vouloir nous apprendre à aimer les autres, à être juste avec les autres, à respecter les autres. Félicien Rousseau, un de mes anciens professeurs, bon, qui est décédé, un homme que j'aimais, ça, un professeur en morale. Je me souviens une fois, on sortait du pavillon où étaient nos bureaux. On aimait beaucoup ce parler. Il avait dit, c'est beau la chanson de Bizet, hein? L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Mais tu te rends compte comment, en soi, c'est un sacrilège. Parce que c'est pas vrai que l'amour n'a jamais connu de loi. C'est l'amour qui fonde toutes les lois. Parce que si tu es vraiment en amour, tu voudras pas blesser l'autre. Tu voudras pas voler l'autre. Tu voudras pas... Prenez vos 10 commandements. Tu ne vendras pas le bien de l'autre. Tu ne voudras pas tuer l'autre. Tu voudras... L'amour dont nous parle Jésus, l'amour qui est nourri par la foi, c'est un amour qui va amener des œuvres qui sont des œuvres de miséricorde, qui vont être au fond les commandements du Nouveau Testament, les béatitudes. Maud nous a préparé un beau petit texte quand on a eu la réunion de préparation. Si vous êtes d'accord, je lui demanderai qu'elle nous le partage.
Il adore le Dieu de tous ceux qui l'entourent, mais son cœur cherche, pris dans les guerres, et devient un immigrant. Alors, de campement en campement, avec sa femme et ses biens, c'est un peuple. Dans son cœur se cache une grande souffrance, sa femme est terrible. Il essaie tous les trucs connus à l'époque pour tous les enfants magiques de fécondité. Il veut prendre des moyens et pauvres reconnus alors, mais rien ne réussit à calmer son cœur. Pourtant, Abraham n'est pas jeune lui seul. Quelqu'un est un jour intervenu dans sa vie, quelqu'un qui ne connaissait pas, qui s'est mis à lui parler avec autorité, mais aussi avec douceur. La voix de cet ami lui faisait chaud au cœur, et lui apportait courage, lumière, et lui enlevait ses peurs et son dégoût de la vie. Cet ami lui parlait de toutes sortes de façons, même par la stérilité de sa femme et par ses guerres qui viennent tout déranger. Il lui parlait par un beau ciel étoilé et par une grève au grain de sable sans nombre. Il lui parlait par telle personne avec son voisin. Il venait même parfois souper avec lui, bien expérimentement. Il lui a surtout parlé de ce petit qui est arrivé, à la grande surprise de sa femme, alors qu'ils étaient tous les deux très âgés. Ce Dieu, peu à peu, s'est fait connaître comme quelqu'un qui est proche et se préoccupe de l'homme. Il donne gratuitement. Il est le plus fidèle des amis. Avec lui, on peut marchander comme de bons orientaux savent le faire. Abraham a appris à le prier, à le considérer comme quelqu'un avec qui on peut et doit avoir des relations interpersonnelles. Abraham a trouvé joie et paix. Et aujourd'hui, 4000 ans plus tard, Abraham apprend encore ce qu'est un croyant, quelqu'un qui a la foi en Dieu.
Merci beaucoup, Maud. Cette foi qui est une source de vie est aussi une source de joie. Pendant nos moments de réflexion, mais chacun, ce que je vous proposerai pendant la méditation, à sa quatrième vie, tout ça, c'est peut-être d'apprendre à se déposséder et j'irai non pas tant chercher. Pas tant de chercher à savoir comment on peut répondre à Dieu, mais chercher à reconnaître les appels de Dieu, comment il nous appelle aujourd'hui, comment il nous interpelle au niveau de notre foi. Abraham est un père dans la foi, un père extraordinaire, et Israël, c'est le premier père d'une série de pères et de mères dans la foi. Et j'aurais envie de prendre les derniers instants, les derniers moments de notre rencontre pour réfléchir avec vous, nous mettre à l'écoute d'une de nos mères dans la foi. On a le choix, cette année on est gâtés parce qu'on a entre autres deux saints qui ont vécu ici sur le même territoire, qui ont respiré la même air, qui ont marché, qui ont vu le fleuve, tout ça. On a Monseigneur de Laval, Saint-François de Laval, et Marie de l'Incarnation, Sainte Marie de l'Incarnation. Vous connaissez la vie de Marie de l'Incarnation un peu, ou tout le monde, vous la connaissez par cœur, vous savez quelle date elle est née? Oui? Non, elle a fait tout ça, mais... Non, mais je vous raconte si vous ne saviez pas, parce que... Marie de l'Incarnation, elle s'appelait Marie Guyard. Elle est née à Tours, en France, en 1599, donc c'était la dernière année du 16e siècle. C'était la quatrième enfant d'une famille de huit. Son père était un boulanger, un petit commerce, mais assez prospère. Sa mère, c'était une femme qui était très pieuse, dévote, tout ça, mais en même temps très cultivée. Et pour elle, c'était important que tous ses enfants, d'ailleurs, toutes les filles, à l'époque, c'était pas encore très coutumier que tout le monde soit capable de lire, écrire et tout ça. Mais tous les enfants de la famille Guyard ont appris à lire et Marie de l'Incarnation a été alphabétisée très jeune. Et très jeune aussi, elle avait développé une piété très grande. Sa mère lui avait appris ses prières, elle fréquentait fréquemment l'église, et un de ses plaisirs quand elle était jeune, vers 6-7 ans, elle, c'était d'aller à l'église, et les sermons à l'époque, ils étaient longs, là, des sermons de 3/4 d'heure, 1 heure, ça fréquent, là, aujourd'hui on fait une résolution, mais dans ce temps-là. Mais elle, c'est un de ses plaisirs d'aller là. Elle écoutait ça. Puis après, elle revenait chez eux, et son plaisir avec les domestiques, ça, c'était de leur répéter, de leur dire ce qu'elle avait dit. Elle savait pratiquement intégralement les choses. Elle aimait fréquenter la parole de Dieu. Et elle raconte, parce qu'à un moment donné, il s'est passé toutes sortes de choses. À 15 ans, elle a dit à sa mère, oh, moi, je voudrais rentrer chez les religieuses. Sa mère était une femme sage et tout ça, mais elle dit, voyons, Marie, tu es une fille bien trop joyeuse pour rentrer chez les sœurs, hein? On ne va pas chez les sœurs quand on est joyeux. T'es bien trop joyeuse pour ça, t'es mieux d'être mariée. Fait qu'elle a pris ça comme un signe et elle a obéi. Elle faisait confiance, elle avait une foi. Et elle s'est mariée avec Claude Martin. Claude Martin, c'était un petit entrepreneur qui avait une usine de soie, il fabriquait de la soie. Et puis, après quelques temps, dans l'année qui a suivi le mariage, elle est devenue enceinte, elle a eu un beau petit bonhomme, et elle a donné à son fils le nom de son mari, c'est-à-dire Claude. Alors, le petit Claude grandissait, puis elle, bon, une des choses qu'elle a écrit, elle dit, quand moi j'ai été rendue chez mon mari, elle était rendue maîtresse de maison, elle pouvait arranger les choses, son mari il travaillait, elle supervisait les comptes et tout ça, mais elle dit, je pouvais arranger mes choses, et à chaque jour, je pouvais me rendre à l'église pour prier, ce que je pouvais pas toujours faire quand j'étais chez mon père, parce qu'il faisait tellement travailler que j'étais pas libre. Là, je gérais mon temps, et personne ne savait ça, mais moi, je fréquentais. Et puis, les choses sont passées, mais lorsque son bébé a eu 6 mois, le papa a eu une maladie, tu sais, et il est décédé. Donc, elle s'est retrouvée veuve. Alors elle avait à l'époque début de la vingtaine, et son petit-fils avait 6 mois. Donc, elle a décidé de s'occuper, et avec son petit-enfant, elle a dû liquider l'entreprise de son mari, qui était en faillite, qui était vraiment quelque chose d'épouvantable. Alors, c'est là qu'elle a fait preuve, parce qu'elle avait été élevée dans une boulangerie, elle connaissait des chiffres, elle a fait preuve d'un génie des affaires et tout ça, elle a réglé pour éviter la faillite, régler les créances, régler tout ça, protéger entre autres sa belle-mère qui, elle, comptait sur la rente du fils pour survivre, enfin, elle a tout réglé. Et là, elle est retournée vivre au deuxième étage, la boulangerie de son père, avec son fils. Elle avait un petit coup de main, mais là, elle a décidé, une fois devenue veuve, elle a dit, mais je peux faire une vie de reclus. C'est-à-dire, là, son rêve de redevenir religieuse était toujours présent. Mais en fait, je ne peux pas devenir religieuse, parce que j'ai un poupon, mais je peux quand même vivre dans la prière. Et elle a décidé, quelques mois après, de faire ce qu'elle appelait le vœu de chasteté, parce que là, elle était quand même une femme solide, 20 ans, jolie femme, bontie, prospère, brillante, et ça. Et là, il y a beaucoup de parties qui étaient autour, et la famille, on voulait la remarier. Et on souhaitait la remarier à un jeune homme prospère, riche, tout ça, parce qu'à l'époque, les fortunes, c'est comme ça que ça se montait. Elle ne voulait rien savoir de ça. Donc, en faisant tranquillement un vœu de chasteté, c'est-à-dire le chien des prétendants est à mort, et puis elle avait la peine d'une certaine façon, mais elle pouvait poursuivre son projet de vie. Et là, bon, après 1,5 ans, 2 ans qu'elle était chez son père, sa sœur, qui s'appelait aussi Claude, Madame Claude, qui était mariée à Paul Buisson, lui, il avait une entreprise de transport à Tours. Mais là, il avait perdu la bonne qu'il avait là-bas, celle qui entretenait toute la maison, c'était une grande maison, il y avait une 50aine d'ouvriers. Alors, ils sont venus voir Marie, puis ils ont dit, écoute, Marie, là, toi, t'es libre, t'es tout seul, t'as pas de mari, bon, t'as ton enfant, viendras-tu vivre chez nous pour s'occuper de la maison? Elle a réfléchi, tu sais, puis elle a dit, bon, ok, j'y vais. Et dans ce secret, c'est lui ce qu'elle a fait. Elle a fait un vœu, elle a dit, je vais y aller, et elle s'est entendue qu'en dehors de toutes les tâches de travail, on la laisserait dans son intimité. Alors, elle a dit, tout ce que vont me demander ma soeur et mon beau-frère, je fais le vœu de leur obéir. Et c'est un vœu personnel en disant, je fais à Dieu le vœu d'être obéissant à ce qu'on va me demander comme étant des appels du Seigneur, et je le ferai. si on la voit, elle va demander après un an ou deux, elle était rendue sur les ports de la Loire, c'est elle qui s'occupait des employés, les ouvriers, ça, des débardeurs, puis tout ça, vous voyez, ça n'a pas toujours rien, puis elle raconte des choses, là-dedans, à un moment donné, il y en a, qui se faisait mal, c'est dit que les sacs, les jurons, puis tout ça, ça revoit là par là, puis elle leur disait, hey, tu peux prendre, elle faisait mettre à genoux, dire demander pardon, puis elle retournait. Mais elle était aimée, elle était respectée, mais elle était intransigeante, elle était claire, les choses étaient précises, et il y avait un climat qui était extraordinaire. Et elle, en dehors du travail, elle se retirait, elle priait, bon. Et puis, les choses ayant évolué, elle a eu à un moment donné, vers l'âge de 21 ans, on appelle ça la conversion de sa vie. Enfin, et là, elle a fait une rencontre avec le Christ, et je dirais dans son corps, dans son expérience, elle a découvert que le Christ avait versé son sang pour l'humanité et qu'elle-même, elle était baignée dans un sang qui était un sang, une source de vie et de rédemption pour la vie vers le royaume. C'est des pages absolument émouvantes, extraordinaires qu'elle racontait à un moment donné. Et elle dit, et j'ai en même temps compris qu'il avait fait ça pour toute l'humanité. Et que même si j'avais été toute seule au monde, il aurait fait la même chose. Et pour elle, en même temps, ça va loin, ça veut dire que le jour où elle va venir au Canada, chaque fois qu'elle voyait une petite Amérindienne, chaque fois qu'elle voyait quelqu'un qui était beau, pour toi, tu aurais été tout seul au monde, et il aurait tout fait ça pour toi. Une foi totale en ce Dieu qui veut être présent à tous ses enfants et les amener, va vers toi, va pour toi, grandis. Et ça, ça a été sa découverte, et c'est comme ça, bon, petit à petit, elle a approfondi, elle a réfléchi, elle a eu des expériences mystiques extraordinaires, et à un moment donné, elle s'est reconnue comme pouvant, elle s'en croyait pas digne, mais s'est reconnue comme l'épouse du Christ, qu'on appelle le mariage mystique. Et comme épouse, elle a décidé de donner sa vie au royaume, et le royaume, c'est entre autres, que les âmes puissent connaître Jésus-Christ, que les âmes puissent, elles aussi, être invitées, et avoir la possibilité elle-même de dire « Oui, je veux ». Marie n'a jamais voulu dire un « oui » à la place des autres. Dans les textes, ça fait ses correspondances, là. Vous allez trouver là, plein de places, là. Elle va dire « Et l'Esprit va faire telle chose, si tu veux, si je veux, si dans ta réponse. » Elle ne peut pas répondre. Mais elle va tout faire pour que l'annonce soit faite, et elle va prier pour que la personne trouve la réponse et dise son oui et qu'elle fasse son chemin. Elle ne veut pas que les gens croient comme elle, elle veut que les gens croient en son Dieu comme ils sont. Alors, dans les textes, je vous dirai pas tout, j'avais tout prévu ça, mais il y a un des beaux textes au tout début, c'est que son fils, lui, a grandi. Bon, il y a toutes sortes d'histoires sur le sol. Un jour, on fait une rencontre juste sur Marie. Mais un jour, son fils, rendu à quand Marie a parti pour le Canada, Marie, elle est partie en 539. Donc, ça veut dire qu'elle venait d'avoir 39 ans. Et son fils, l'autre, qui était né, lui, dans la première année du mariage, vers 1618-19. Donc, il était rendu à 18-19 ans. Et, bon, il a trouvé ça dur, parce qu'il savait qu'il reviendrait sa mère. Mais à un moment donné, les choses ont évolué, et il a décidé de devenir prêtre. Et il est devenu moine bénédictin. Et là, il y a une correspondance, et ça, c'est l'affaire la plus extraordinaire, c'est pour ça qu'on connaît Marie dans son intérieur, c'est que lui, il était moine au monastère de Saint-Maur, en France, elle était au Canada, et la seule façon de travailler, de se parler, c'était par la correspondance. Alors, ils se sont écrits des centaines et des centaines de lettres. Et le fils, à un moment donné, à travers ça, le fils était un grand théologien, il était un gars brillant comme tout. Et quand il a lu les textes de sa mère, il a réalisé qu'il y avait là sa manière de parler de la Sainte Trinité, entre autres. J'ai jamais dit, il était aussi fort quand elle parle, le Père, le Fils, l'Esprit. Le Père, lui, qui nous donne la parole, le Fils qui nous aide, lui, à entendre, et l'Esprit qui fait grandir cet amour. Mais il y a des éléments extraordinaires. Alors, quand il y a eu tout ça, il y a eu à un moment donné, il dit à sa mère, mais je veux connaître votre vie. Et elle a dit, comme je vous ai abandonné quand même, quand elle est rentrée au monastère, le fils avait 12 ans, elle avait tout arrangé pour qu'il soit éduqué, pris en charge, et là, le fils s'est senti abandonné. Alors, elle dit, comme je vous ai fait souffrir, et moi, j'ai souffert dans ma chair, vous n'avez aucune idée de la souffrance que j'ai eue de cette séparation, mais il me fallait obéir à l'appel de Dieu. Va quitte ton pays, ta famille, et va vers le pays que je t'indiquerai. Marie l'a vécu dans son corps, dans son sang. Elle est rentrée chez le religieux en obéissant à l'appel, et non pas en abandonnant son fils, mais en remettant son fils à Dieu. Et dans les textes, elle dit, je priais toujours Dieu, je le suppliais. Et quand elle est devenue, son fils est devenu prêtre, évidemment, elle a dit, Dieu le prend en main, et là, ça a été le plus grand moment de sa vie. Et c'est comme ça que Marie nous a écrit ses textes, et le fils voulant connaître sa vie, elle a écrit une autobiographie, c'est-à-dire, elle lui a raconté l'histoire de sa vie. Et c'est là qu'elle lui raconte dans cette histoire qu'à l'âge de 6 ans, elle a fait un rêve, où elle a vu descendre du ciel le plus beau des enfants des hommes. Et il lui dit, veux-tu être à moi? Et elle a répondu, oui. Après, à travers la vision du sang, cette conversion, elle a dit, moi, je veux être tout à mon époux. Et ensuite, dans le monastère, elle raconte, ça faisait depuis 2 ans qu'elle était là, elle était en prière, quand tout à coup, est arrivé, à travers une oraison, tout ça, cette rencontre d'une dame qui était assise avec un fils sur ses bois qui regardait dans une direction et qui lui disait, voilà les pays qui sont à trouver et à découvrir. Et un an après, dans une autre vision, c'est cette parole de Dieu qui vient, le Canada, c'est le pays que je t'ai fait voir. C'était inimaginable qu'une religieuse cloîtrée derrière la clôture puisse avoir le droit de sortir de sa clôture. Et par Marie l'Incarnation, par les Jésus, par les prières, elle devient la première religieuse cloîtrée à sortir d'un couvent pour faire 5000 kilomètres, venir ici. Et pourquoi elle est venue ici? Elle n'est pas venue comme exploratrice. Elle n'est pas venue, j'allais dire, pour des résultats. Elle est arrivée à Québec. La première chose qu'elle a fait, c'était de faire un monastère à l'intérieur duquel elle a été. Marie n'est jamais allée à Trois-Rivières. Elle n'est pas allée à Lévis. Elle est arrivée pour se retirer encore plus du monde, mais afin d'accueillir le monde, les Amérindiens, les intendants, les évêques, les commerçants, les coureurs de bois, les défroqués, les prostituées, les filles du roi. Tout le monde est venu au monastère, et elle, elle était là, dans la source de Dieu, au niveau de la foi, pour leur parler de Dieu. On a, j'allais dire, une fille d'Abraham, on a quelqu'un comme ça qui est pour nous un témoin de foi. Et je vous invite dans tous les cas, je vais vous remettre, on va finir avec une toute petite prière et un chant. À l'occasion de sa canonisation, bon, il y a un feuillet qui a été fait, et à l'arrière, il y a un petit extrait de cette oraison qu'a écrit Marie dans ses états d'oraison, comment elle est devenue, une fois qu'elle a entendu l'appel de Dieu, d'aller au service du monde, annoncer le monde. Parce que c'est ça qu'on est appelé, nous. C'est pas être des polices dans le monde, mais annoncer l'amour du Père. Et à travers nos situations, à partir de nos fauteuils roulants, à partir de nos lits, à partir de nos situations, il y a en nous, par cette foi qui nous anime, cette possibilité de dire au monde, ouvrez vos cœurs à l'amour de Dieu. Je vous remets à chacun ça, et on va lire la prière. Alors, ceux qui connaissent un peu, vous allez reconnaître cette superbe image. Ça, c'est une statue en bronze. Et si jamais vous allez à la fontaine de Tourny, puis vous regardez le Parlement de Québec qui est là, sur la façade du Parlement, dans la niche qui est en haut, un peu du côté droit, on retrouve donc dans cette institution, Marie de l'Incarnation, et c'est cette statue qui avait été faite expressément pour être mise. C'est une pièce unique, mais qui est placée en haut. Et ce que je peux vous dire comme secret, c'est que celui qui a fondu cette statue en bronze, c'est un Italien, et avant de casser les moules, il a demandé aux Ursulines de Québec si elles aimeraient avoir une copie. Et il y a effectivement cette statue en copie. Si jamais vous allez au vieux monastère des Ursulines, vous demandez pour aller voir le tombeau de Marie de l'Incarnation. Il y a une pièce extraordinaire. C'est un endroit où on peut se recueillir, prier. Il y a le beau tombeau. Et vous lèverez les yeux en haut. Vous allez voir la statue qui est juste là vis-à-vis les vitraux. Alors, je vous invite qu'on lise la prière. C'est juste le haut. C'est la conclusion de ce texte. Mon corps était dans notre monastère. Mais mon esprit, qui était lié à l'esprit de Jésus, ne pouvait être enfermé. Cet esprit me portait en pensée dans les Indes, au Japon, dans l'Amérique, dans l'Orient, dans l'Occident et dans toute la terre habitable. La foi qui nourrit Marie, la foi d'Abraham, la foi qui est cette foi en Dieu le Père, et la foi qui est là comme source pour nous inviter à cette joie des enfants de Dieu, parce que Dieu n'est pas là simplement pour émouvoir nos sentiments, mais pour mettre en nous cette joie profonde que notre vie, elle est innée, qu'elle est faite pour le royaume. Nous sommes au monde pour être des êtres réussis dans l'amour de Dieu, et nous sommes invités à le prier, à nous mettre disponibles à lui.
Yeah.